toujours un plaisir de parler de tradition française dans le programme. Et aujourd'hui, on a Édouard Normandin qui nous vient directement de France, plus ou moins directement de France. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de cognac. Ouais. Et quand on parle d'alcool comme ça, de spiritueux, d'alcool de tradition, c'est toujours une histoire de famille.
Alors oui, c'est très souvent une histoire de famille. Moi, c'est le cas pour ma marque, puisque c'est mon ancêtre Jules qui a commencé l'activité en 1872. Donc moi, je suis la cinquième génération, j'ai 38 ans. Et donc, j'ai repris le flambeau à la suite suite à mon père. Donc,
d'accord. Il y a un peu de pression quand on récupère comme ça une marque qui a quand même un peu de pédigré, un peu de gens, l'univers, un historique.
Il y a de la pression, il y a des challenges, il y a des dilemmes, parce que la nouvelle génération cherche toujours à innover. Innover dans la tradition, c'est toujours compliqué. Mm-hmm. Ça donne quelques défis à relever, mais c'est super intéressant parce que bon, moi, c'est toujours ce que j'ai souhaité faire. C'était un choix.
Depuis tout
petit.
Ça
m'a jamais été imposé. Ouais. Donc ça, c'était vraiment déjà chose importante. Et puis voilà, c'est un métier qui me plaît énormément, qui est très varié et qui me permet d'innover, de garder le fil conducteur de la représentation de la France, d'être ambassadeur, de voyager, enfin de plein de choses qui me plaisent. J'aime beaucoup, je suis assez épicurien, j'aime les bons vins, les bons repas, j'aime bien cuisiner. Donc dans tout ça, j'arrive vraiment à joindre l'ensemble et me faire plaisir. Ouais.
D'accord, le cognac dans tout ça, une énorme tradition en France. Mmh. Mais une énorme tradition dans le monde également. C'est vraiment quelque chose qui est connu à travers la planète, le cognac.
Ouais, ça reste l'alcool, le spiritueux, vraiment le plus représentatif du savoir-faire français. Ouais.
Mais pourquoi plus le cognac que l'armagnac ? Enfin, là, je fais l'avocat du diable, mais pourquoi plus le cognac que l'armagnac ?
Ah, je pense que c'est une question de puissance plus qu'autre chose. Dans le cognacé, les chiffres sont juste éloquents. Hein. La production d'armagnac totale représente la consommation de cognac en France.
D'accord.
La consommation de cognac en France, ça représente moins de 2% de la production.
Donc, d'accord.
Voilà. On est sur rien à voir en termes de volume et donc forcément. Et puis en plus, c'est les grosses marques de luxe hein, qui sont derrière, qui sont des locomotives de pleine puissance. Premier groupe de luxe au monde, hein, LVMH. Donc forcément, ça retentit, ça résonne. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le produit est un produit d'excellence, de vraie qualité, un produit défendu et qui a été dès le début protégé, une des plus vieilles AOC de France, qui fait que il a su garder son prestige au niveau de l'international et vraiment cette fiabilité quoi.
D'accord. C'est dur d'exister à côté des grandes marques. Vous dites des grands groupes comme LVMH. Vous avez, je vais pas dire votre petite production familiale, mais vous avez votre production familiale. Ouais. C'est dur d'exister à côté de mastodontes comme LVMH.
C'est dur d'exister. On n'est pas du tout dans les mêmes ratios et sur les mêmes objectifs. Hein, ça n'a rien à voir. Je dis, on se contente des miettes, mais c'est intéressant de jouer dans cette cour parce que on essaie toujours de récupérer un peu d'audience, de faire notre buzz dans notre coin, de côtoyer les grands et c'est important parce que ça permet d'élargir un peu l'offre. Hein. On a bien entendu les cognacs, j'irai toujours. Un peu plus industriel, très 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 standardisé. Et puis on a les cognacs de petites manufactures d'industrie, les craft cognacs, des choses de famille.
Voilà. D'accord.
Qui n'ont rien à voir.
Là aujourd'hui, donc vous êtes en Australie. L'Australie, il y a quand même une tradition par rapport au vin qui date de pas mal. Même si c'est un vin du Nouveau Monde entre guillemets, en France, en tout cas, c'est un vin qui a quand même une tradition qui est ancrée un peu dans le temps. Le cognac est reçu comment dans un marché comme l'Australie ?
Alors moi, je viens d'arriver.
Ce matin, vous ne savez pas.
C'est la première fois.
Non, vous avez
faire,
des relations
ça,
en Australie.
Ça doit faire 30 ans qu'on est présent en Australie. Et
donc le marché, vous le connaissez un peu, même si physiquement, vous ne le connaissez pas.
Le marché, je le connais plus par les échos que j'ai.
Donc vous attendez quoi ? Alors je refais ma question, vous attendez quoi ? Vous arrivez ce matin, c'est quoi les attentes aujourd'hui ?
Les attentes, c'est de voir justement les modes de consommation, le style vers australien, de voir un petit peu toute ce mode de vie, ce qui fait comment le produit est perçu et consommé. Voilà, vraiment
D'accord. Si on pense au cognac, donc on pense à toutes ces traditions, etc., au niveau de la clientèle, est-ce qu'il y a un rajeunissement de la clientèle? Est-ce que les jeunes boivent du cognac ou faut attendre des gens comme vous et moi la quarantaine d'années pour commencer à comprendre ce que peut être un produit comme le cognac?
Alors, je pense réellement qu'il y a un rajeunissement. Alors,
est-ce que les hipsters boivent du cognac?
Est-ce que c'est parce que je vieillis que j'ai l'impression qu'il y a un rajeunissement? Je ne sais pas, mais dans l'idée, je pense que le marché des spiritueux, notamment le whisky, a fait beaucoup de travail et a initié beaucoup de gens. Et ça permet par la suite d'ouvrir des portes à d'autres spiritueux, tels que le cognac, l'armagnac, le rhum. Cette curiosité, eh bien, ça permet, oui, une porte d'entrée sur le cognac. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au cognac et qui ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été initiés à d'autres alcools comme le whisky avant.
D'accord.
Et il y a plus de jeunes, oui, je pense.
D'accord. Est-ce que le hipster peut se tourner vers le cognac?
Oui, sur notamment les mixologistes. Les mixologistes font un travail fantastique et justement touchent beaucoup de jeunes clientèles. Ils sont très créatifs dans leur proposition, dans leur cocktail. Et on a vraiment cette chance-là. Alors forcément, on n'est pas du tout sur le même produit. Ce n'est pas des cognacs très vieux, ce n'est pas des cognacs consommés purs. Mais des jeunes cognacs font des choses magnifiques. J'ai toujours l'habitude de dire un cocktail, c'est un chaînage. C'est-à-dire qu'il faut toujours des produits de qualité pour avoir un produit final de qualité. Si le moindre des éléments qui composent ce cocktail est de qualité médiocre, ça va tout de suite ruiner l'ensemble. Donc il faut bien entendu des bons produits pour faire un bon final.
D'accord, je vais faire une question lambda de quelqu'un qui ne connaît pas du tout
le produit,
mais du cognac en cocktail, c'est plutôt nouveau ou ça a toujours été?
Ça a toujours été.
D'accord.
Ça a toujours été.
Donc vos ancêtres ne se retourneraient pas dans leur tombe de
non,
savoir quel est le cognac qu'ils trouvent dans des cocktails?
Non, non.
Et de savoir que ça se retrouve avec d'autres produits peut-être, c'est la nouveauté.
Oui, c'est la nouveauté. Non, on a toujours mélangé les différents spiritueux ensemble. Moi, je pense pas que ce soit vraiment là où il y a une nouveauté, enfin où il y a des choses à creuser. Mais par exemple, dans l'histoire, le cognac en France, on le consommait souvent avec de l'eau de seltz, la fine au cognac, c'était avec de l'eau pétillante. Aujourd'hui, avec du Perrier glace, c'est très très bon. Et puis, pendant toute la période de prohibition aux États-Unis, le cognac se buvait en cocktail pour justement pouvoir masquer et ne pas divulguer la consommation qui était interdite. Donc, alors c'est marrant, c'est vrai que dans l'histoire, il y a toujours des choses. Donc, si on est beaucoup, le horse's neck est né aux États-Unis comme ça, le between the sheets. On sortait le cognac. Donc non, il y a presque plus de 300 cocktails, recettes de cognac qui existent. Si vous tapez sur Google, vous allez voir, c'est juste incroyable, c'est un monde à part et c'est super.
Donc, d'accord.
Jeune cognac toujours.
D'accord. On parle de cognac, mais il y a des cognacs. Il n'y a pas un cognac, il y a
ouais,
des cognacs.
Oui, ouais, bien sûr. Comme dans tous les produits. Ouais. Ouais.
Et l'innovation dans tout ça?
Alors l'innovation, on est très limité parce que c'est une AOC qui est très stricte. Donc entre autres, on est obligé d'utiliser du chêne pour le vieillissement de nos eaux de vie. Il faut que ce soit vieilli dans le territoire d'appellation, c'est-à-dire à Cognac, enfin sur le territoire AOC, c'est-à-dire Charente-Maritime, un petit bout de Dordogne, un petit bout des Deux-Sèvres.
Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, on parle un petit peu en dessous de Bordeaux.
L'ouest français, voilà. le Grand Ouest entre Nantes et Bordeaux.
D'accord.
Donc ça, il faut que les fûts, par exemple, sont faits. Aujourd'hui, c'est la grande mode du double matured, finition, les finish, les casques finish. On peut utiliser ce genre de fûts à condition que ce soit des eaux de vie qui étaient à base de vin. Donc de raisin, excusez-moi. Donc jamais sur du whisky, jamais sur de l'aquavite, sur du mezcal ou de la tequila, où c'est toujours toutes ces choses-là sont interdites. Donc on peut faire uniquement sur des bases vineuses.
Les marchés, je suppose, bon, il y a le marché français qui est sûrement hors norme, mais en termes d'exportation, il y a les États-Unis, j'imagine.
Premier marché.
Ça, voilà. Enfin, moi, je pense cognac, je pense États-Unis, je pense Mad Men. Je pense que le lien, il est là, mais bon, je viens de finir la série, donc c'est peut-être pour ça. 2 ans après tout le monde. Mais
il faudrait peut-être que je la regarde.
Ça vaut le coup, honnêtement. C'est SBS en plus qui la diffuse ici en Australie. Donc, mais les nouveaux marchés, Russie, Chine. C'est ouais. Émergent pour vous tout ça?
C'est émergent. En fait, le cognac a toujours été lié à la richesse des pays. Donc, en fonction d'où où est l'argent, le cognac n'est jamais loin. Donc, les États-Unis ont toujours été le premier marché du produit, du cognac, mais ça peut changer. Ça évolue en termes de valeur. L'Asie est passée devant sur les États-Unis est passée devant. Après, en volume, ça reste toujours les États-Unis. Hein.
D'accord.
Parce qu'on est plus sur une consommation de jeunes cognacs, hein, justement en cocktail.
Alors que pour les Américains.
Alors que sur l'Asie, c'est
ils ont du mal avec les vieux trucs, les Américains. Les fromages un peu typés, ils ne sont pas encore là. Hein.
Non, ça fait partie du protectionnisme américain. Parce qu'en fait, eux le produisent sur place, mais la législation l'interdit. Hein, tout ce qui est lait cru et des choses de vivant, tout ça, la barrière est là. Quoi.
D'accord. Mais c'est, ouais. Est-ce que vous arrivez à sortir des... Vous avez la réponse, c'est sûrement oui, mais... Pour sortir des produits d'exception, il y a des millésimes aussi sur le cognac, il y a des années qui vont être forcément plus exceptionnelles que d'autres. C'est aussi comme ça que ça fonctionne, le cognac ?
Oui, en effet. Les millésimes, ça représente à peine 1% de la production de cognac. Donc, c'est très rare. La tradition dans le cognac, c'est les assemblages. C'est le rôle du maître de chez, moi, qu'aujourd'hui, je représente chez Normandin Mercier. C'est d'assembler les différentes eaux de vie pour arriver à une constance, une qualité régulière. De manière à ce que nos clients, qu'ils aient goûté un de nos produits il y a 10 ans ou qu'ils le goûtent aujourd'hui, qu'ils le goûtent dans 10 ans, qu'ils aient la même expérience olfactive et même expérience sur le produit. Donc ça, c'est très important. Et ces assemblages, ils vont permettre de justement gommer les aléas de la nature. Hein, parce que toutes les années, comme vous dites, ne se ressemblent pas. Donc de manière, grâce aux assemblages, on va permettre à avoir un produit constant. Les millésimes, c'est des choses hors normes. On est sur des produits qui représentent, donc qui sont issus d'une seule et même année, pas d'assemblage, donc représentatif d'une année de production, sur lequel donc ça va être présent sur la bouteille, va être présent la date de production et la date de mise en bouteille. Chose très importante pour les spiritueux, puisque à partir du moment où le spiritueux est en bouteille, il ne vieillit plus. Donc il est prêt à la consommation et il faut éviter de le garder trop longtemps parce qu'il a tendance à se dégrader. Hein. Donc ça se garde longtemps, mais dans des bonnes conditions.
Et on le sait assez tôt dans une année qu'on va avoir une année exceptionnelle.
C'est pas facile. Il faut se projeter. Il faut avoir beaucoup d'expérience. On est vraiment au terme sur la dégustation, sur les eaux de vie. Alors forcément, il y a des critères. Hein, d'avoir de l'eau quand il faut, un froid assez rigoureux pendant l'hiver, pas de stress hydrique, pas trop de maladies, enfin des choses oui. Après, ce qui va parler, c'est vraiment l'eau de vie à son résultat lorsqu'on la récupère à l'alambic. Et là, il va falloir miser, savoir si c'est plutôt un cognac qu'on va faire vieillir pour le passer en jeune ou un cognac qu'on va conserver longtemps. Et à ce moment-là, si on va le conserver longtemps, est-ce qu'on le millésime pour le proposer pur ? Il faut qu'il corresponde vraiment avec toutes les exigences, que ce soit en termes organoleptiques, notes fruitées, florales, boisées, et qu'il soit très complet. C'est-à-dire qu'on n'aura plus d'options par la suite pour l'assembler, on pourra pas le corriger, il sera vendu tel que. Donc c'est exceptionnel. Et à ce moment-là, les fûts chez nous sont scellés. Il y a une personne qui vient sermenter, qui scelle des fûts et donc à chaque fois on peut pas faire une intervention sans que cette personne soit présente.
D'accord. Est-ce qu'il y a des petits moments dans votre vie où vous avez ouvert des fûts qui ont été faits par votre père ou votre grand-père et cette beauté de se dire je sais pas, 15 ans, 20 ans après, on ouvre le travail de papa ou de...
Alors, oui, mais ça a jamais, pour moi, ça n'a jamais été de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ouvrais et je découvrais. Aujourd'hui, je travaille sur des produits qui ont été élevés par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, même mon arrière-grand-père, le fondateur.
Et ça vous fait pas quelque chose, ça.
Ça me fait quelque chose. Ah oui. Mais c'est pas comme si, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était des reliques que je n'avais jamais goûté et que j'ouvrais et que voilà. Donc c'est des choses que j'ai, que je connais mon stock, je le goûte et tous les ans je fais un inventaire donc je sais ce que j'ai. C'est pas comme s'il y avait eu un fût qui avait été mis de côté, qui était scellé et puis que 50 ans après je l'ouvrais. C'est pas ça. Mais oui, en effet, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on déguste des eaux de vie qui ont été faites par mes ascendants.
D'accord. Et dernière question, l'avenir pour la marque, pour vous ?
L'avenir pour la marque ?
Encore plus d'extension internationale ? Parce que le marché français est déjà bien
le marché français est loti, oui, mais je compte bien dessus pour un développement plus de présence encore. Notamment, on travaille bien avec les épiceries fines, les restaurants gastronomiques, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait l'appui d'un réseau de distribution un peu mieux établi parce qu'en termes de temps et de prospection, c'est pas évident. Donc vraiment, il faut s'appuyer sur un réseau de distribution placé, bien choisi, très important. Et puis sur la marque, on a un beau potentiel de croissance. Donc ça c'est important. Et puis toujours en recherche de la qualité. Et innover sur en conservant la qualité et en proposant des choses d'exception.
Et est-ce que justement le fait que on voit que le monde se tourne de plus en plus vers les foodies, vers la gastronomie, que ça reste plus forcément un truc franco-français, mais qu'à travers la planète on se concentre de plus en plus sur des jeunes chefs, de la création, pour vous c'est forcément il y a forcément un élan là-dedans.
Oui, il y a de l'élan. Après il faut taper à la bonne porte et arriver à pouvoir toucher ces jeunes chefs. Et ça, bon, quelques amis restaurateurs peuvent m'aider à ça, mais c'est
ça va souvent ensemble quand même.
Ouais, ça va souvent ensemble. Il faut que il faut que les chefs soient un petit peu curieux et qu'ils aient envie. Il faut que ils sont tellement sollicités, ils ont tellement de choses à se préoccuper que les spiritueux, ça reste, je dirais, la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est malheureux, mais c'est
bon courage, en tout cas, pour tout ça.
Merci beaucoup. Avec plaisir.